Aristote, Physique, Livre 5, Chapitre 7. Sommaire. De la contrariété du mouvement. Sens divers dans lesquels on peut entendre qu'un mouvement est contraire à un mouvement. Élimination de plusieurs nuances. Différence du changement et du mouvement. Mouvement vers les intermédiaires. Pour que deux mouvements soient contraires, il faut qu'ils aillent tous les deux du contraire vers le contraire. Paragraphe 1. Il nous faut encore expliquer quel est le mouvement qui est contraire à un autre mouvement, et donner aussi des explications analogues sur l'inertie ou le repos. Paragraphe 2. Déterminons d'abord si le mouvement qui s'éloigne d'un certain objet est contraire à celui qui va vers ce même objet. Par exemple, le mouvement qui s'éloigne de la santé est-il contraire à celui qui tend vers la santé? Manière dont la génération et la destruction semblent être contraires entre elles. Ou bien, le mouvement contraire est-il celui qui part des contraires? Par exemple, le mouvement qui part de la santé est-il contraire à celui qui part de la maladie? Ou bien encore, est-ce celui qui tend au contraire? Et par exemple, le mouvement qui tend à la santé est-il contraire à celui qui tend vers la maladie? Ou bien, le mouvement qui part du contraire est-il contraire à celui qui tend vers le contraire? Ainsi, le mouvement qui vient de la santé est-il contraire à celui qui va vers la maladie? Ou bien enfin, celui qui va du contraire à l'autre contraire est-il contraire à celui qui va aussi du contraire au contraire? Par exemple, le mouvement qui va de la santé à la maladie est-il le contraire de celui qui va de la maladie à la santé? Il faut nécessairement que le mouvement contraire soit une de ces nuances ou plusieurs de ces nuances, car il n'y a pas d'autres oppositions possibles. Paragraphe 3. Le mouvement qui part du contraire n'est pas contraire à celui qui va vers le contraire. Ainsi, le mouvement qui s'éloigne de la santé n'est pas contraire à celui qui va vers la maladie, car c'est un seul et même mouvement. Toutefois, la façon d'être n'est pas identique de part et d'autre, pas plus que changer en quittant la santé n'est pas tout à fait la même chose que changer en allant à la maladie. Paragraphe 4. Le mouvement qui s'éloigne du contraire n'est pas davantage contraire à celui qui s'éloigne de l'autre contraire, car tous les deux partent du contraire et vont vers le contraire ou vers l'intermédiaire. Du reste, nous reviendrons un peu plus loin à cette nuance. Mais le changement qui va vers le contraire semblerait devoir amener cette opposition de mouvements contraires plutôt que le changement qui part du contraire, car celui-ci repousse la contrariété dont il se dégage, tandis que celui-là la gagne. Or, tout mouvement se désigne bien plutôt par le but où il tend que par le but d'où il s'éloigne. C'est ainsi que la guérison est le mouvement vers la santé et le malaise le mouvement vers la maladie. Paragraphe 5. Reste donc, et le mouvement qui va vers les contraires et celui qui va vers les contraires en partant des contraires. Paragraphe 6. Il est bien clair, d'ailleurs, que les mouvements qui vont vers les contraires partent en outre des contraires, mais leur façon d'être n'est pas tout à fait identique. Je veux dire, par exemple, que ce qui va vers la santé n'est pas la même chose que ce qui s'éloigne de la maladie, et réciproquement, que ce qui s'éloigne de la santé n'est pas la même chose que ce qui va vers la maladie. Paragraphe 7. Mais, comme le changement ne se confond pas avec le mouvement, car c'est le changement d'un certain sujet réel en un autre sujet qui est un vrai mouvement, il s'ensuit que le mouvement qui va d'un contraire à un contraire est contraire au mouvement qui va d'un contraire à un contraire. Par exemple, le mouvement de la santé vers la maladie est contraire au mouvement de la maladie vers la santé. Paragraphe 8. L'induction elle-même peut servir à montrer quels sont ici les contraires véritables. Ainsi, devenir malade est bien le contraire de recouvrer la santé. Être instruit est le contraire d'être trompé, quand on ne se trompe pas soi-même. Car c'est aller vers des contraires, puisqu'il est possible qu'on acquiert la science et l'erreur, soit par soi-même, soit par autrui. La tendance en haut est contraire à la tendance en bas, puisque ce sont là des contraires en longueur. La translation à droite est contraire à la translation à gauche, car ce sont là des contraires en largeur. Enfin, le devant est contraire au derrière, car ce sont là aussi des contraires. Paragraphe 9. Le changement qui va simplement au contraire n'est pas un vrai mouvement, ce n'est qu'un changement, par exemple, devenir blanc, sans que ce soit en partant de quelque autre état. Paragraphe 10. Et là où il n'y a pas de contraire, le changement qui part du même est contraire au changement qui va vers le même. Ainsi, la génération est le contraire de la destruction, et la perte est le contraire de l'acquisition. Mais ce sont là des changements, ce ne sont pas des mouvements. Paragraphe 11. Quant aux mouvements qui vont vers l'intermédiaire, là où entre les contraires il y a un intermédiaire, en effet, il faut les classer aussi parmi les mouvements vers les contraires, car le mouvement prend l'intermédiaire comme contraire, quel que soit celui des extrêmes dans lequel il change. Ainsi, l'objet passe du gris au blanc comme il y passerait du noir, et il passe du blanc au gris comme il passerait au noir. Du noir, il passe au gris comme il passerait au blanc, parce que le gris est le milieu qui se rapporte d'une certaine manière aux deux extrêmes, ainsi qu'on l'a dit antérieurement. Paragraphe 12. Ainsi donc, un mouvement est contraire à un mouvement, en ce sens que le mouvement qui va du contraire à l'autre contraire est contraire à celui qui va de l'autre contraire au contraire. Chapitre 8. Sommaire. De l'opposition du repos et du mouvement. Le repos est une privation, nuances diverses de cette opposition. Le repos peut être opposé au repos comme au mouvement. De distinction, de l'immuabilité et du repos. Paragraphe 1. Comme ce n'est pas seulement le mouvement qui est contraire au mouvement, mais que c'est aussi le repos, il faut éclaircir ce point. Absolument parlant, c'est le mouvement qui est contraire au mouvement, mais le repos aussi y est opposé, car le repos est une privation, et la privation peut bien passer à certains égards pour une sorte de contraire. Paragraphe 2. Quels sont donc le repos et le mouvement qui sont opposés l'un à l'autre? C'est, par exemple, le repos dans l'espace qui est opposé au mouvement dans l'espace. Paragraphe 3. Mais l'expression dont je viens de me servir est une expression absolue. Or, on cherche si à un repos dans tel état, c'est le mouvement partant de cet état qui est opposé, ou bien si c'est le mouvement allant vers ce même état. Paragraphe 4. Or, comme le mouvement suppose toujours deux termes, le repos dans tel état est opposé au mouvement qui part de cet état pour aller à l'état contraire, et le repos dans l'état contraire est opposé au mouvement qui part du contraire pour arriver à cet état. Paragraphe 5. De plus, les deux repos aussi sont contraires l'un à l'autre, car il serait absurde si les mouvements sont contraires, que les repos opposés à ces mouvements ne fussent pas contraires également. Paragraphe 6. Ce sont alors les repos dans les contraires. Et par exemple, le repos dans la santé est contraire au repos dans la maladie, comme il est opposé au mouvement qui va de la santé à la maladie, car il serait absurde qu'il fût opposé au mouvement qui va de la maladie vers la santé. Le mouvement vers l'état même où il y a temps d'arrêt est plutôt une tendance au repos, et cet état peut parfaitement coexister avec le mouvement. Mais il faut nécessairement que ce soit l'un ou l'autre de ces mouvements, car le repos dans la blancheur n'est pas contraire au repos dans la santé. Paragraphe 7. Là où il n'y a pas de contraire, il y a changement. Le changement qui part de tel état étant opposé en changement vers le même état. Mais il n'y a pas de mouvement. Ainsi, le changement qui part de l'être est opposé à celui qui va vers l'être. Et il n'y a pas là de repos à proprement dire. Il n'y a qu'immuabilité. Paragraphe 8. Si le non-être était quelque chose, l'immuabilité dans l'être serait contraire à l'immuabilité dans le non-être. Mais comme le non-être n'est pas quelque chose, on peut se demander à quoi est contraire l'immuabilité dans l'être, et si elle est du repos. Paragraphe 9. Si elle est du repos, alors, on doit admettre ou que tout repos n'a pas pour contraire un mouvement, ou bien que la génération et la destruction sont des mouvements aussi. Il est donc clair qu'on ne peut pas dire que cette immuabilité soit du repos, à moins qu'on ne voie aussi des mouvements dans la destruction et la génération. Mais on doit dire que l'immuabilité est quelque chose de semblable au repos. Paragraphe 10. Ainsi donc, ou elle n'est contraire à rien, ou elle est contraire, soit à l'immuabilité dans le non-être, soit à la destruction. Mais la destruction part de cette immuabilité, et la génération y va. Chapitre 9. Sommaire. De l'opposition du mouvement et du repos naturel et contre nature. Opposition générale de ce qui se fait par force et de ce qui se fait selon la nature dans les différentes espèces de mouvement. Le mouvement contre nature est contraire au mouvement selon la nature, plus que le repos est contraire au mouvement. Questions diverses, résumé de la comparaison du mouvement et du repos. Paragraphe 1. On peut se demander pourquoi, lorsque dans le changement selon le lieu, il y a et des repos et des mouvements qui sont ou suivant la nature ou contre nature, on ne trouve dans les autres espèces de changement rien de pareil. Par exemple, une altération selon la nature et une altération contre nature. Car la santé n'est pas plus selon la nature ou contre nature que ne l'est la maladie. La noirceur ne l'est pas plus que la blancheur. Et de même encore pour l'accroissement et le dépérissement. Ces changements ne sont pas contraires les uns aux autres, en tant que selon la nature ou contre nature. Non plus que l'accroissement n'est pas contraire à l'accroissement. On peut encore en dire autant de la génération et de la destruction. Ainsi, la génération n'est pas selon la nature, et la destruction contre nature, puisque rien n'est plus naturel que de vieillir. Et nous ne voyons pas non plus que telle génération soit selon la nature et que telle autre soit contre nature. Paragraphe 2. Mais si c'est ce qui arrive par force qui est contre nature, la destruction par force comme étant contre nature sera contraire à la destruction naturelle. Il y a donc certaines générations qui se font par force et qui ne sont pas fatalement régulières, auxquelles les générations naturelles sont contraires. Il y a aussi des accroissements et des destructions violentes. Par exemple, les accroissements de ces corps auxquels la volupté donne une puberté précoce, ou bien encore les accroissements de ces froments qui sont forts tout à coup sans avoir de profondes racines en terre. Mais pour l'altération, comment se passent les choses? Est-ce de la même manière? Les altérations sont-elles les unes violentes et les autres naturelles? Par exemple, tels malades ne sont pas guéris dans les jours critiques, et tels autres sont guéris dans les jours critiques. Ceux qui sont guéris hors des jours critiques sont altérés contre nature, les autres le sont naturellement. Paragraphe 3. Mais alors les destructions seront contraires les unes aux autres et ne le seront pas aux générations. Et où est la difficulté? C'est parfaitement possible, car telle destruction peut être agréable, tandis que telle autre est pénible. Par conséquent, la destruction n'est pas contraire à la destruction d'une manière absolue, mais elle l'est seulement en tant que l'une des destructions est de telle façon et que l'autre est de telle façon différente. Paragraphe 4. Ainsi donc, d'une manière générale, les mouvements et les repos sont contraires selon le sens qui vient d'être expliqué. Par exemple, le mouvement en haut est contraire au mouvement en bas. Ce sont là des oppositions de lieux contraires. Le feu, suivant sa tendance naturelle, se porte en haut, tandis que la terre se porte en bas. Leurs tendances sont donc contraires, puisque naturellement, le feu va en haut et que s'il va en bas, c'est contre nature. Son mouvement de nature est contraire à son mouvement contre nature. Il en est de même des repos. Ainsi, le repos en haut est contraire au mouvement de haut en bas. C'est ce repos contre nature qui serait celui de la terre si elle restait en haut. Mais son mouvement de haut en bas est selon sa nature. Par conséquent, le repos contre nature est contraire au mouvement selon la nature pour le même objet, puisque les mouvements de ce même objet sont également contraires. Et que l'un des deux, soit en haut, soit en bas, sera selon la nature, tandis que l'autre sera contre nature. Paragraphe 5. Mais on peut se demander s'il y a génération du repos toutes les fois qu'il n'est pas éternel, et si cette génération du repos est précisément le temps d'arrêt du corps. Paragraphe 6. Certainement il y a génération du repos pour un corps qui s'arrête contre nature, et par exemple pour la terre quand elle reste en haut. C'est parce qu'elle a été portée par force en haut qu'elle s'y est arrêtée. Paragraphe 7. Mais le corps qui s'arrête semble toujours avoir un mouvement de plus en plus rapide, tandis que celui qui est mu par force éprouve tout le contraire. Ainsi donc, le corps sera en repos sans devenir précisément en repos. Paragraphe 8. Et pour un corps s'arrêter, c'est absolument la même chose qu'être porté vers son lieu spécial, ou du moins, l'un se produit toujours simultanément avec l'autre. Paragraphe 9. Une autre question, c'est de rechercher si le repos en tel état est contraire au mouvement qui s'éloigne de ce même état. En effet, quand le corps est mis en mouvement pour sortir de tel état, ou qu'il perd quelque état antérieur, il n'en semble pas moins garder encore, quelque temps, ce qu'il perd. Si donc c'est le même repos qui est contraire au mouvement, parti de cet état pour aller à l'état contraire, il s'ensuit que les contraires seront simultanément dans l'objet. Paragraphe 10. Ou bien, ne peut-on pas dire que le corps est de quelque façon déjà en repos si d'ailleurs il s'arrête plus tard, et qu'en général, le corps qui est mis en mouvement est en partie ce qu'il est et en partie ce en quoi il change. Paragraphe 11. Et c'est là ce qui fait que le mouvement est plus contraire au mouvement que le repos. Paragraphe 12. Il y a enfin, pour le repos, la question de savoir si tous les mouvements contre nature ont aussi un repos opposé. Paragraphe 13. Si l'on soutenait qu'il n'y en a pas, ce serait absurde, car le corps reste en place. Et il y reste par force. Paragraphe 14. Il y aurait donc alors quelque chose qui serait en repos et non éternellement, sans que le repos eût eu une cause. Paragraphe 15. Mais il est clair qu'il y aura un repos de cette espèce, car il peut y avoir repos contre nature, comme il y a mouvement contre nature. Paragraphe 16. D'autre part, il faut se rappeler qu'il y a mouvement selon la nature et mouvement contre nature pour certains corps. Ainsi, pour le feu, le mouvement naturel est en haut, et le mouvement en bas est contre nature. Est-ce ce dernier mouvement qui est contraire à l'autre, ou bien est-ce celui de la terre qui naturellement est porté en bas? Paragraphe 17. Il est clair que tous les deux sont contraires, seulement ce n'est pas de la même manière. Mais d'une part, le mouvement selon la nature est opposé au mouvement selon la nature, et d'autre part, pour le feu, c'est le mouvement en bas qui est opposé au mouvement en haut, comme étant l'un de nature et l'autre contre nature. Paragraphe 18. Or, il en est de même aussi pour le repos. Paragraphe 19. Voilà ce qu'il y avait à dire du mouvement et du repos, pour expliquer ce qu'ils sont chacun dans leur unité et comment l'un peut être opposé à l'autre. Fin du livre 5.